Mondial Sport sur RFI. Olivier Pron, Alexandre Seban.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mondial Sport, au programme des 50 minutes à venir, peu ou prou, du football. D'abord, nous irons en Italie faire le point sur le calcio à l'issue de la troisième journée, et à Moscou où le trophée de la Coupe du Monde a entamé hier un long périple à travers le pays et le monde. Arrivée prévue en juin, hein, pas plus tard, dans la capitale russe. Du foot aussi en Afrique, Alexandre Seban, bonsoir.
Bonsoir Olivier, en effet du football et les suites des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Focus ce soir sur le Nigeria et le Mali, et puis on fera un tour du côté du Ghana où se relance cette année le tournoi de l'UFOA. Tété Hadji nous dira comment est l'ambiance sur place et si le début de compétition est réussi. Ensuite, on se partagera entre la Tunisie et le Sénégal où se joue la première partie de l'Afrobasket. Côté sénégalais, je peux vous dire, Olivier, qu'on regrette déjà que le tournoi ne se déroule pas entièrement sur la terre des lions. Enfin, on filera en Côte d'Ivoire pour un tour cycliste dont RFI est partenaire cette année et où Frédéric Gassman nous relatera les péripéties de la première étape disputée aujourd'hui.
Péripéties, c'est le mot. Du cyclisme aussi en Espagne, avec le bilan de la Vuelta remportée par Christopher Froome ce dimanche à Madrid. Nous parlerons aussi tennis avec un autre bilan, celui de l'US Open, même si la finale homme se déroule en ce moment. Nadal-Anderson tient pile poil 3-3 dans la première manche. Enfin, nous irons au fond des mers, ou presque en fin d'émission, à la rencontre d'un apnéiste français, Morgan Bourkis. Allez, Mondial Sport, c'est parti. Quentin Bresson est à la baguette.
RFI.
Direction l'Italie donc pour commencer. Troisième journée du calcio ce week-end et la Juventus de Turin qui signe un troisième succès de rang dès hier. 3-0 face au Chievo Vérone grâce notamment à Higuain mais aussi bien sûr à Dybala. Bonsoir Matteo Ciuffi.
Bonsoir Olivier.
Sans Paul Dybala, la Juve n'est pas la même.
Bah, certainement, la vieille dame a un enfant prodige à la maison et Paul Dybala est un talent et hier il l'a de nouveau confirmé. Sans lui, la Juve en première mi-temps est apparue assez pauvre d'idées et même ennuyante. Et seul un but contre son camp a permis aux Turinois de mener au score après les premières 45 minutes. Puis en début de deuxième partie de jeu, l'Argentin est rentré sur le terrain à la place du Croate Mandzukic et à partir de ce moment-là, la rencontre s'est transformée. Dybala a transmis énergie et qualité à tous ses coéquipiers. Les jeux de Bianconeri est devenu amusant et la Juve a cartonné 3-0 avec un but du même Dybala, son cinquième but après seulement 3 journées. Donc à la fin du match, c'est lui qui a été élu homme du match et Max Allegri au micro des journalistes a déclaré Dybala bientôt deviendra avec Neymar le plus fort joueur au monde.
Et carrément, au même niveau que la Juve et Matteo, on retrouve l'Inter, 9 sur 9 aussi pour les interistes qui cet après-midi ont dominé la Spal, comme on l'appelle, 2-0 dans un stade plein, en plein déjeuner, dites donc.
Oui, en effet, tout marche donc comme souhaité pour les Nerazzurri qui ont surmonté un obstacle plus dur que prévu. Le promu Spal a en effet montré d'être bien organisé techniquement et à mon avis, cette équipe pourrait cette saison créer des belles surprises. Bon, pour en venir au match d'aujourd'hui, les Interistes ont ouvert le score sur penalty réalisé par leur capitaine Mauro Icardi. Cinquième goal pour lui et meilleur buteur de la Serie A avec Paul Dybala. La deuxième réalisation est arrivée grâce à l'autre leader de l'équipe, c'est-à-dire le Croate Ivan Perisic, qui avec une très belle frappe de volée a mis un point final sur le match. Perisic, qui en semaine a renouvelé jusqu'en 2022 son contrat avec l'Inter, pour la joie des supporters du club, qu'il adore, et qui aujourd'hui ont donc rempli le stade de San Siro, ils étaient plus ou moins 60 000 et cela confirme qu'autour de l'équipe de Luciano Spalletti, l'enthousiasme est en train progressivement de monter.
À noter que Naples compte aussi 9 points dans votre championnat, 3 victoires en 3 matchs, ça vient de tomber, ça s'est terminé il y a quelques minutes, succès ce soir à Bologne, 3-0 pour les Napolitains. En ce qui concerne l'autre Milan, Matteo, là franchement, sale dimanche, un gros raclé encaissé à la Lazio.
Absolument. Après 6 victoires en 6 matchs officiels entre championnat et Ligue européenne, l'AC Milan a concédé sa première défaite, qui correspond à une chute assez douloureuse, 4-1 face à la Lazio. Un résultat qui reflète pour l'instant les difficultés de cette équipe milanaise, qui, n'oublions pas, a été reconstruite cette année, et qui a donc besoin d'un peu plus de temps pour pouvoir vraiment exprimer tout son potentiel. À la veille de ce match, le technicien Vincenzo Montel avait déclaré que le défi contre la Lazio aurait fourni des importantes indications sur la vraie valeur de son équipe. Et bon, les indications arrivées aujourd'hui sont loin d'être positives, surtout au niveau défensif, où on trouve un certain Bonucci. Mais bon, faut pas désespérer, les Rossoneri ont les moyens pour se relancer, les joueurs sont là, il suffit de trouver la bonne recette pour les assembler de façon gagnante. Donc, bon travail, Monsieur Montella.
Merci Matteo, bon travail de votre côté, du côté de Milan. On vous souhaite une bonne fin de soirée et on vous dit à bientôt ailleurs en Europe, en Espagne. Sachez que la Real Sociedad de San Sebastián s'est imposée 4-2 au Deportivo La Corogne ce dimanche et a ainsi rejoint le Barça en tête avec 3 succès en 3 matchs, 2 longueurs devant le FC Séville et l'Athletic Bilbao, vainqueur lui cet après-midi 2-0 à Gérone. Enfin en Ligue 1 française, le calvaire de l'OM se poursuit après le 6-1 encaissé à Monaco il y a 2 semaines. Le feuilleton, que faire avec une défense en bois, a repris de plus belle ce soir. Défaite au Vélodrome, 3-1 face à l'avant-dernier, Rennes, avec un super Wahbi Khazri, l'international tunisien, auteur du premier but, dès la 2e minute. Le 3e est l'œuvre de l'ivoirien Joris Niagnon. A noter le pénalty, également raté dans les arrêts de jeu par le congolais Firmin Moubélé. L'addition aurait pu être pire pour cet OM, 10e avec 7 points après 5 journées, 8 de moins que le leader, le Paris Saint-Germain. Devant Monaco, hein, qui est à 3 longueurs. 3e Lyon, après son succès heureux, 2-1 face à Guingamp. 4e Saint-Etienne, 1 point derrière l'OL, après son nul 1-1 à domicile, toujours cet après-midi, face à Angers. On prend le chemin de Moscou, comme promis, à présent. Hier, 9 septembre, la ville célébrait son 870e anniversaire. À moins de 10 mois de la Coupe du Monde, la capitale russe a profité de l'événement pour lancer la tournée mondiale du trophée remis au vainqueur, donc en juin prochain. C'était au stade Loujniki, en présence notamment de Vladimir Poutine, de Gianni Infantino, le président de la FIFA, de David Trezeguet, champion du monde en 98, et de notre correspondant Ali Keïta.
24 villes russes, puis 50 pays à partir de janvier. C'est un agenda présidentiel qui attend le trophée décerné au vainqueur de la Coupe du Monde de foot dans les prochaines semaines. Et surprise, ou pas, c'est Vladimir Poutine lui-même qui est venu lancer la tournée mondiale des 6 kilos d'or les plus convoités de la planète.
Aujourd'hui, le Mondial 2018 de football lance la tournée du trophée dans notre pays. Un voyage de 123 jours qui verra le trophée parcourir 26 000 kilomètres, ce qui représente le plus long itinéraire de l'histoire de la tournée.
Dans son rôle de VRP de luxe, Poutine a même offert, fait rarissime en Russie, un bain de foule à la statuette au milieu d'apprentis footballeurs qui participaient à un tournoi sur la pelouse de Loujniki. Une scène à laquelle journalistes, photographes et caméramans ont pu assister depuis la tribune opposée de la Flambe Neuve en Sainte Moscovite. Loujniki, qui est désormais le 5e stade fin prêt à accueillir le mondial, aurait d'ailleurs quelque chose de plus selon le président de la FIFA, Gianni Infantino. Beautiful.
Il est magnifique, il est fonctionnel, opérationnel et sûr, mais il possède aussi quelque chose que peu de stades ont dans ce monde, une énergie positive que vous pouvez ressentir quand vous êtes sur le terrain. Je pense que les joueurs, quand ils joueront les matchs ici, dans un stade plein, ils auront des frissons.
Encore faut-il garnir ces 82 000 sièges, ce qui n'a pas toujours été le cas des stades russes pendant la Coupe des Confédérations. Pour y remédier, Gianni Infantino avait un message, disons, planétaire à faire passer.
Au monde entier, j'ai envie de dire, venez en Russie, profitez de la Russie et célébrez la Coupe du Monde.
Toujours présent lorsqu'il s'agit de conclure, malgré un marquage serré de la part de l'organisation, David Trezeguet, invité à participer à la cérémonie en tant qu'ancien champion du monde 98 et légende du football, a furtivement partagé ses prédictions pour le prochain mondial.
Je pense que cette Coupe du Monde, ça va être exceptionnel par rapport à tout, par rapport au football, par rapport au haut niveau, par rapport aux supporters. Bon, je pense que la Russie a montré pendant cette Coupe de Confédération d'être au top niveau et je pense que l'année prochaine, ça va être la même chose.
Ali Keïta, Moscou, RFI.
Allez, la suite de cette première partie consacrée au football, c'est en Afrique. Quelques jours après la troisième et la quatrième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde, l'heure est au bilan pour les pays encore en lice, mon cher Alexandre.
Oui, pour le Mali, le bilan est forcément négatif. Le match nul à Bamako 0-0 mardi n'a pas effacé la déroute du match aller à Rabat. Une défaite 6-0, vous en souvenez certainement. Les Aigles sont pratiquement certains de ne pas voir la Russie au mois de juin. Alain Giresse a même rendu son tablier. Après cette nouvelle déconvenue à la tête des Aigles, si on ajoute une élimination au premier tour de la CAN, une crise institutionnelle, l'année 2017 est pour l'instant très difficile à Bamako. Pourtant, il y a deux ans, la troisième place des Maliens à la Coupe du Monde des moins de 20 ans permettait d'envisager l'avenir avec optimisme, mais avoir de bons résultats chez les jeunes ne suffit pas, nous explique le président de la FEMAFOOT, Boubacar Babadira.
Nous avons opté pour une solution intermédiaire et qui consiste à confier l'équipe à un encadrement local. C'est-à-dire que l'entraîneur que nous avons désigné, il est du Mali, c'est le directeur technique national qui est actuellement en fonction. Et maintenant, il sera secondé par Fousseni Diawara, un professionnel malien qui a été même capitaine des Aigles. Et maintenant, cet encadrement va manager les Aigles pour les deux matchs à venir de Coupe du Monde. Maintenant, au-delà, il y aura les élections le 8 octobre. Donc, il y aura un nouveau bureau exécutif de la Fédération malienne de football. Ce bureau se donnera, à mon avis, tout le temps de mieux choisir un bon encadrement pour l'équipe nationale. Mais ce que nous aurions souhaité finalement d'internaliser la fonction. Parce que le Mali a usé plus de 15 entraîneurs expatriés blancs sans donner de résultats probants. Donc il y a lieu de voir maintenant la formule appropriée. Et la formule appropriée pour nous, c'est d'aller prendre parmi nos anciens professionnels qui connaissent l'environnement des équipes professionnelles, qui remplit les conditions d'entraîner une équipe nationale, c'est-à-dire être titulaire d'un diplôme, le diplôme de l'UEFA ou la licence A, pour lui permettre de diriger une équipe nationale.
À propos de licence A, je crois que la fédération en a formé à Bamako.
Mais bien sûr, nous avons formé avec l'appui de la CAF 19 entraîneurs, mais ils viennent d'accéder à la licence A il n'y a que 2 mois. Donc, ils n'ont pas l'aptitude, à mon avis, d'entraîner une équipe nationale composée et uniquement de joueurs professionnels.
Boubacar Babadira au micro de Mamadou Kaloga. Pour être complet, Olivier, le DTN nommé coach intérimaire se nomme Mohamed Magasouba. Prochain match pour les Aigles, le 2 octobre face à la Côte d'Ivoire.
Et un coucou à l'ami Amadou Paté Diallo qui ne doit pas être loin de cet encadrement. Le bilan, Alexandre, il est bien meilleur du côté du Nigeria.
Oui, à la faveur d'une double confrontation fructueuse face au Cameroun, les Super Eagles sont en tête d'une poule difficile. Après 4 journées, ils pourraient valider leur billet à l'issue de leur prochain match à domicile face à la Zambie, une troisième participation consécutive à la Coupe du Monde. Ce serait une belle consolation pour une grande nation qui a raté les deux dernières CAN. L'un des artisans de ce retour au premier plan, c'est le sélectionneur franco-allemand Gernot Rohr, qu'on connaît bien ici, arrivé au Nigeria en 2016. Au micro d'Ishaka Adegboye, il nous livre sa recette.
On a travaillé, on a beaucoup travaillé, il n'y a pas de secret, avec un staff compétent, avec des assistants très présent, tout le monde, que ce soit ici au Nigeria ou en Europe. Exemple, récemment, on avait un grand problème de gardien de but, puisque nos 3 premiers gardiens étaient indisponibles. Et puis, on a eu un deuxième entraîneur de gardien qui est venu nous aider pour améliorer Ezenva, le gardien local, qui finalement a été très présent dans les 2 matchs contre le Cameroun. Il y a aussi la prise de conscience de tout le monde, de la fédération, des officiels, mais bien sûr avant tout des joueurs, pour que chacun fasse un effort. On a rajeuni l'équipe, on avait une équipe très très jeune qui a joué au mois de juin, et puis là les anciens sont revenus qui ont permis de faire un cocktail d'expérience et de jeunesse. Ça a marché avec un public en plus à Ouyo et un bon terrain qui nous permet de bien nous exprimer. Et voilà, mais maintenant on est toujours prudent parce que on n'est toujours pas qualifié, car il y a une équipe derrière nous qui s'accroche.
Qu'est-ce qui a motivé Genetro à encadrer les Super Eagles, bien sachant que l'équipe du Nigeria c'est quand même une équipe compliquée.
Oui, mais on n'a pas peur de ça. Mais c'est l'aventure aussi, c'est la joie de pouvoir travailler à la tête d'une équipe composée de grands joueurs. On a quelques joueurs de classe mondiale, comme Victor Moses, par exemple. On a un défenseur extraordinaire qui est Léon Balogun, qui joue en Bundesliga. On a des joueurs qui sont à l'écoute. Et on a un pays magnifique à découvrir, avec une grande population très diversifiée, avec des cultures qui sont multiples, avec des gens qui sont très hospitaliers aussi. Et je crois que ce football est différent, il est très riche, parce qu'il y a beaucoup de Nigérians qui sont nés ailleurs. Si ça prend, ça peut être enrichissant pour tout le monde.
Voilà, vous êtes à 90 minutes de la Russie. Alors, la Zambie arrive comme votre dauphin. Comment allez-vous jouer le match le 7 octobre ?
Oui, comment on va jouer ? Je crois qu'il y a un match référence qui est celui qu'on a livré contre le Cameroun le 1er septembre à Ouyo. Si on arrive à imposer le même football à nos adversaires, avec la vitesse, avec la technique, avec la soif de vaincre, avec aussi des duels qu'on gagne, ce qui ne sera pas facile contre la Zambie, parce qu'elle a une excellente équipe, puissante même, et qui a le vent en poupe, parce qu'elle reste sur 2 victoires contre l'Algérie. Ce n'est pas n'importe qui, même si aujourd'hui l'Algérie a un peu baissé. Mais c'est quand même une très belle équipe qui ne fait pas de complexe. On a gagné là-bas, c'est vrai. Mais c'était l'année dernière, c'était pas la même équipe. De cette équipe-là, il y a plus que 3 ou 4 joueurs. Les autres ont poussé venant des moins de 21 ans. La Zambie n'est qu'à 3 points. On les reçoit, ça va être une finale pour aller à la Coupe du Monde. Et je compte quand même sur l'orgueil et l'ambition de mes joueurs pour pas laisser échapper cette occasion de se qualifier à domicile pour la Coupe du Monde en Russie.
Voilà, prochaine échéance donc, Olivier, pour les Super Eagles, début octobre à domicile face à la Zambie.
Les Chipolo Polo, on termine cette page football avec le retour du retour du retour du tournoi de l'UFA Alexandre qui se déroule depuis hier au Ghana.
Très bon début de compétition qui réjouit tous les acteurs réunis pour le renouveau de cette Coupe de l'Union des Fédérations Ouest-Africaines de Football. Et avant de vous délivrer les résultats du jour, Tété Hadji, notre correspondant au Ghana, revient sur l'engouement sur place.
Absent pendant 6 ans, le tournoi de l'UFA reprend son droit de cité, à la satisfaction des dirigeants, du public qui se mobilise depuis samedi et bien sûr des joueurs et des entraîneurs, comme nous l'explique Omar Tchomogo, le sélectionneur des écureuils du Bénin.
UFOA, ça représente un tournoi qui permet de voir les joueurs qui jouent dans la sous-région. C'est une grande compétition, c'est pour ça qu'on est là, donc on va essayer d'aller jusqu'au bout.
Le public, lui aussi, est enthousiaste de revoir ce tournoi et dès l'ouverture hier, des supporters viennent remplir les stades et encourager leurs équipes favorites à l'image de Victoria, supportrice ivoirienne.
Enfin, le football, c'est un jeu comme tout sport. J'apprécie beaucoup le football par rapport aux autres disciplines. En fait, moi, je n'ai pas de préférence en tant qu'ivoirienne. J'aime les bonnes choses. Si le Togolais joue mieux par rapport à la Côte d'Ivoire, je peux supporter le Togo et je suis là pour les 16 pays. Je n'ai pas de préférence.
Sur le plan de l'organisation, tout semble donc fonctionner depuis l'inauguration samedi et cela réconforte Anthony Bafoué, le directeur de la compétition.
Il y a beaucoup d'avenir. Je suis content de faire partie de cette organisation. Et puis les matchs d'hier aussi, je crois que dans l'ensemble ça s'est bien passé. Mais il y a encore beaucoup de matchs qui vont venir et puis on est là pour travailler, on est là pour assister aux équipes. Inch'Allah, ça ira.
Cette nouvelle UFOA démarre donc sous les meilleurs auspices. Reste aux acteurs sur le terrain d'offrir un beau spectacle d'ici la finale le 24 septembre. Tété Hadji, Kepkos, RFI.
Aujourd'hui, Olivier, victoire 2-1 du Niger devant le Burkina Faso. Même score pour la Guinée devant la Guinée-Bissau. Les deux équipes sont qualifiées pour la phase de groupe.
Et pour l'instant, Nadal a remporté la première manche 6-3 face à Kevin Anderson. On se retrouve dans un peu plus de 3 minutes. On reparlera tennis, notamment cyclisme et d'un tas d'autres choses.
Mondial Sport sur RFI. Olivier Pron, Alexandre Seban.
Bonsoir ou rebonsoir à tous. Si vous étiez avec nous lors de la première mi-temps de Mondial Sport, nous y avons parlé exclusivement football. Eh bien, c'est fini, c'est raté pour ceux qui n'étaient pas là. Place au cyclisme pour attaquer la deuxième partie avec d'abord un bilan de la Vuelta, le Tour d'Espagne qui s'est achevé ce dimanche à Madrid, achevé sans réelle surprise sur une victoire de Christopher Froome, le Britannique qui réalise un doublé historique, quasi historique. Tour de France Vuelta, inédit en tout cas ce doublé depuis 1978. Il devance l'Italien Nibali et le Russe Zakarin. Et pour revenir sur cet exploit et d'autres choses encore, notre confrère de l'équipe, Philippe Legarce, est avec nous. Bonsoir Philippe.
Bonsoir.
Christopher Froome est intouchable, c'est le meilleur.
Ah bah là, c'est incontestable. Hein. Quand on gagne le Tour de France et quand on se lance dans la conquête de Tour d'Espagne un mois plus tard, c'est qu'on est sûr de soi et qu'on a les moyens de le faire et qu'on a réussi comme il l'a fait avec brio, en dominant tous ses adversaires sur tous les terrains. C'est chapeau, quoi. C'est chapeau champion parce que il n'y en a pas beaucoup qui l'ont réussi. Lui, il a tenté depuis ces dernières années, il tentait de se doubler, qui lui échappait souvent par malchance, de peu, mais là, cette fois-ci, il a réussi le doublé magnifique, donc ça, c'est chapeau.
Il n'a pas d'adversaire en ce moment dans le peloton.
Non, c'est clair que personne n'est capable de le faire trembler. Alors c'est vrai qu'on l'a vu par moment un peu défaillant, mais ça se limite à quelques secondes de perdu. Non, il est vraiment sûr de lui, et puis il a surtout une grosse équipe. On l'a vu samedi dans l'Angliru avec Wouter Poels, le Néerlandais, qui l'a soutenu jusqu'au bout. Et c'est vrai qu'il est en totale confiance. Il n'y a rien qui peut l'inquiéter, effectivement.
Alors le podium, on l'a donné, hein, on le rappelle, l'Italien Nibali deuxième, le Russe Zakarin troisième, mais on n'a pas donné le quatrième, et c'est quand même quelqu'un, Alberto Contador, dont c'était le dernier jour de course ce dimanche. Il est à la retraite, le double vainqueur, on le rappelle, du Tour de France, de deux Giro aussi, et de trois Vuelta, et il a encore brillé sur celle-là.
C'est vraiment le signe d'un champion qui est capable de se motiver jusqu'au dernier jour, enfin en l'occurrence avant l'avant-dernier jour, en gagnant samedi dans cette étape reine de montagne dans les Asturies. C'est vraiment le grand champion par définition. On espère qu'il va donner l'exemple à d'autres coureurs par son panache, par sa motivation malgré son âge, et puis malgré le fait qu'il avait déjà donc décidé d'arrêter sa carrière en prenant le départ de la Vuelta. Il a réussi une sortie parfaite. Tous les coureurs rêveraient de sortir comme lui, et là il a réussi en gagnant samedi. Alors c'est vrai qu'il lui manque peut-être une place sur le podium qu'il aurait mérité. Dans l'esprit, il a sa place sur le podium, mais bon, au classement général, il est quand même quatrième, mais ça se joue pas grand-chose, ça se joue à quelques secondes, mais bon, il a marqué les esprits, et Contador restera Contador, et il aura marqué l'histoire du cyclisme également.
Le premier Français, on le rappelle au passage, Romain Bardet est 17e, mais nous, on va s'intéresser quand même aux Africains. Louis Mentiès, le Sud-Africain, est le premier d'entre eux, il est 12e, ce qui n'est pas rien. On rappelle qu'il a été 8 du dernier Tour de France. Franchement, il s'installe, Louis Mentiès.
Ouais, complètement. C'est vrai que on pourrait faire la fine bouche en disant oui, en 2015, il avait fait une place, une dixième. C'est le premier Africain à finir dans le top 10 du Tour d'Espagne. Là, il fait 12e. Mais là, en 2015, il n'avait pas enchaîné avec le Tour de France, avec une place dans le top 10 du Tour de France. Donc là, on voit qu'il est capable quand même d'enchaîner deux grands tours en l'espace de deux mois, deux grands tours de trois semaines. C'est vraiment pas rien. On sent qu'il prend de la carrure, il prend de la caisse, comme on dit dans le jargon du cyclisme, et là on sent bien qu'il a franchi un palier quand même, parce que faire 8e du Tour de France et dans la foulée faire 12e du Tour d'Espagne, c'est quand même quelque chose, et là il a vraiment franchi un palier. C'est devenu un coureur sur qui il faudra compter à l'avenir.
Il court pour une équipe des Émirats, mais il retournera dans l'équipe sud-africaine Dimension Data la saison prochaine. Le Sud-Africain Jacques-Jansen van Rensburg est 83e. Quelques mots rapidement quand même. Mention pour Merawi Kudus, l'Érythréen. Il a abandonné à l'issue d'une chute lors de la 7e étape, mais il avait failli remporter la 5e. Hein. Il termine 2e.
Il a jailli en début du Tour d'Espagne. Tout le monde l'a regardé avec beaucoup d'attention, parce que c'est vrai qu'il commençait à être connu dans le milieu du cyclisme, mais bon là, il était pas loin de la victoire ce jour-là, et il s'est pas passé loin. Il a vraiment impressionné ses adversaires, et puis ce petit monde du cyclisme qui aime aussi les découvertes, les nouveautés. Et c'est vrai que les coureurs érythréens sont très attendus maintenant depuis Daniel Clémanote. On les suit, et Merawi fait partie de cette nouvelle génération derrière Daniel. C'est vraiment dommage qu'il ait connu cette chute qu'il a contrée à l'abandon. Il aurait tenu le choc. C'est sur des étapes comme en Tour d'Espagne, des étapes de montagne, assez explosive, avec des cols très durs. C'était fait pour lui, il aurait fait certainement une place dans les 20 premiers du Tour d'Espagne. Mais bon, voilà, il est jeune, il découvre, et puis c'est la loi de la compétition aussi, avec les chutes. Il subit aussi la malchance comme d'autres avant lui, mais bon, il a marqué des points pour l'avenir, ça c'est sûr.
Meraoui Kudus, Daniel Tecleamanot, Louis Menties, autant de coureurs qui se sont révélés autour du Rwanda. Ce sera à suivre en novembre, la prochaine édition sur RFI. Merci Philippe Legarce, à très vite sur la radio du Monde. Vélo en Afrique toujours, Alexandre, du côté de la Côte d'Ivoire.
Allez, on file tout de suite à Corogo pour le Tour de Côte d'Ivoire qui a débuté aujourd'hui, où nous attend Frédéric Gassman. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir Alex, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à Corogo.
Un Tour de Côte d'Ivoire dont RFI est partenaire, on le signale. Frédéric, première étape raccourcie, aujourd'hui est disputée sous la chaleur. Je vous laisse nous raconter la suite.
Très chaud, oui, très chaud. Il a fait très chaud aujourd'hui sur la région des savanes, sans doute pas loin de 40 degrés. Et je crois que c'est une bonne chose, hein, si le kilométrage de cette première étape a été ramené de 118 à 70 km, on va dire pour des problèmes d'intendance. Eh bien, ce sont les Belges et les Marocains qui se sont le mieux acclimatés de cette fournaise, puisqu'ils ont été, et ceci dès le début de la course, les initiateurs d'une échappée où il y avait 10 coureurs, 4 Marocains, 3 Belges, un Rwandais, un Ivoirien, un Angolais. Et puis dans le cinquième des 6 tours de ce circuit, 2 Belges et un Marocain sont partis. La loi du nombre a joué. Le Marocain s'est retrouvé trop isolé. Il a terminé deuxième d'un sprint remporté par le Belge Mathias Leglet, premier maillot jaune de ce 24e tour cycliste de Côte d'Ivoire. Un Mathias Leglet, vous allez l'entendre, presque le premier surpris de sa victoire.
J'ai gagné au sprint. Normalement, c'est pas mon spécialité, sprinter, mais bon, 60 km, c'est pas beaucoup aussi. Mais avec la chaleur, c'était chaud ici.
Comment ça s'est passé dans cette échappée avec votre compatriote et le Marocain? On a semblé bien s'entendre, et puis à un moment, il a fallu faire la différence.
Ouais, on a bien roulé ensemble jusqu'au moment que Dieter a crevé. Et après, c'est pas moi pour rouler à bloc, c'est une tactique par équipe, donc c'est pas seulement pas moi, parce que les autres aussi, il a freiné à bloc au peloton pour le ralentir, donc c'est une victoire d'équipe.
Vous prenez le maillot de leader du Tour de Côte d'Ivoire, l'idée c'est d'essayer de le garder le plus longtemps possible.
Ouais, c'est pas évident pour garder le maillot jusqu'à la fin de semaine, donc on va voir jour par jour, parce qu'ici c'est une mauvaise journée et c'est fini le Tour.
Voilà, une mauvaise journée, c'en est fini du tout. En tout cas, Mathias Leglet, vainqueur au sprint d'une demi-roue devant le Marocain Ilyas Rabihi, qui n'a pas tout perdu, hein, puisqu'il portera demain, sur la deuxième étape, le maillot RFI de la plus longue échappée, puisque vous le rappeliez, nous sommes partenaires de ce Tour cycliste.
Alors Frédéric, vous nous parliez des misères des Marocains avant la course. Les Marocains sont d'ailleurs venus en Côte d'Ivoire sans les deux derniers vainqueurs du Tour ivoirien. Et pour l'instant, en tout cas, l'équipe du Maroc n'a pas totalement bien vécu cette première journée.
Et oui, parce qu'ils ont nettement la pancarte de favoris, hein, ici en Côte d'Ivoire. Ils ont gagné les deux dernières éditions avec Moussine Lassaini en 2015 et Morsine El Kouradji. C'était l'année dernière. Chaque année, le cyclisme marocain nous sort une nouvelle génération de bons coureurs, des bons coureurs à qui il a manqué peut-être un petit peu d'expérience aujourd'hui pour s'imposer. C'est en tout cas ce que pense leur directeur sportif. Il s'appelle Abdelali Alami Marouni.
Pour nous, c'est une déception parce qu'on est venu pour gagner, d'abord. Mais comme c'est une deuxième place, c'est pas mal quand même. Comme ça, demain, on va s'organiser pour gérer notre tour. Et toujours la première étape, elle est un peu difficile. On ne sait pas le niveau des coureurs avec lesquels on court. Et demain, on va s'organiser pour être toujours devant et parmi les premiers.
Vous étiez 4 devant, vous étiez presque en surnombre. Ouais. Et puis finalement, vous vous êtes retrouvé en sous-nombre lorsque les deux Belges sont partis avec un seul de vos coureurs. Ouais. Et là, c'est la loi du nombre qui a joué.
Comme il fait très chaud aujourd'hui, nos coureurs ici aussi ils souffrent de la chaleur. On n'a pas eu le temps pour remonter jusque devant pour aller ravitailler. Il se plaint que l'eau devient chaude. Ils ne peuvent pas la boire. Comme c'est des coureurs qui sont jeunes et manquent d'expérience. Mais avec les étapes qui suivent, on va les conseiller pour avoir un bon résultat.
Vous êtes venu ici sans aucun des deux derniers vainqueurs. Pourquoi ce choix?
Cette année-là, ils vont partir pour participer au championnat du monde en Norvège. C'est la priorité là-bas. Et ce sont des bons coureurs. C'est préférable qu'ils seront présents au championnat du monde.
Abdelali Alami Marouni, le directeur sportif des coureurs marocains, qui n'ont sûrement pas dit leur dernier mot, Alex, sur ce Tour de Côte d'Ivoire et de la réconciliation. Demain, ce sera la deuxième étape, direction le sud, hein, avec 116 km entre Katiola et Boaké.
Merci Frédéric Gassman. On vous suivra donc toute la semaine pour ce Tour de Côte d'Ivoire 2017.
Mondial Sport sur RFI.
Allez, on parle tennis à présent dans Mondial Sport. En ce moment se déroule la finale de l'US Open. Elle est inédite et oppose depuis une heure et demie environ Raphaël Nadal, en quête d'un 16e titre du Grand Chelem, le 3e à New York, à Kevin Anderson, le premier sud-africain depuis 1984 en finale d'un tournoi majeur. Pour l'heure et sans surprise, 6-3 la première manche pour Nadal, 2-2 dans la deuxième. Place au bilan donc de cette dernière levée du Grand Chelem de l'année. Pour le faire, nous avons joint en fin de journée l'ancien joueur et directeur technique national du tennis français, Arnaud Di Pasquale, à qui nous avons demandé qui aurait misé sur une telle affiche en finale. Hein,
pas grand monde, en tout cas pas sur Anderson, sur Nadal peut-être, au regard de la saison quand même qu'il effectue. Il joue quand très bien depuis le début de l'année, il est monté en puissance tout au long du tournoi, avec on l'a senti un peu stressé au départ, puis au fil des matchs, il est allé de mieux en mieux. Donc du côté de Nadal, oui, mais en revanche c'est vrai que pour le Sud-Africain, c'est une grande surprise après le bas du tableau, au regard de l'hécatombe de retrait dans ce tournoi, ce qui était donc extrêmement dégagé, et c'est lui qui a tiré son épingle du jeu, Anderson, le Sud-Africain, qui est capable de très bien jouer, qui est un gros travailleur et qui est méritant, voilà, tout simplement. C'est celui qui s'efface peut-être le mieux à la pression d'aller sur cette finale, au regard du tableau, encore une fois, très ouvert.
Ouais, c'était un drôle de tournoi hein, quand même, Arnaud, avec deux moitiés de tableau, on avait l'impression qu'on avait deux tournois différents.
Ouais, c'est sûr, en tout cas en termes de classement, on avait la partie du haut avec Federer et Nadal, donc les deux joueurs les plus en forme, avec un Del Potro qui a été phénoménal et remarquable tout au long du tournoi aussi, donc évidemment beaucoup plus de têtes d'affiche sur le haut du tableau. En revanche, en bas, il y avait des joueurs qu'on n'a pas l'habitude de voir à ce stade de la compétition en Grand Chelem, mais on attendait un Cilic qui a perdu contre le jeune Argentin, pour l'Argentin Pugnace, donc Schwartzman. Donc beaucoup de surprises. Lucas Pouille qui n'a pas réussi, lui, de son côté, à faire face peut-être à ce tableau très ouvert, cette opportunité. Hein. Et derrière, donc Anderson, hein, qui finalement a réussi, lui, à peut-être jouer à un très bon niveau. Donc c'est vrai. Ouais, deux tournois, pratiquement en un, avec ce haut et ce bas du tableau, c'est vrai. Maintenant, c'est comme ça, ça arrivera à d'autres reprises, même si c'est très rare.
Si Raphaël Nadal l'emporte, et il est le grandissime favori, et si on fait un bilan donc des quatre grands chelems de cette année 2017, deux pour Federer, deux pour Nadal, qui l'eût cru début janvier?
Ouais, pas grand monde. C'est sûr que début janvier, on avait tendance à les enterrer un petit peu, à imaginer toujours Djokovic, Murray, peut-être la relève avec les plus jeunes. Je pense à Nishikori, à Dominic Thiem, enfin il y en a d'autres, hein, Raonic, on peut en imaginer un certain nombre potentiellement être capables, éligibles en tout cas à la victoire en Grand Chelem, mais finalement ce sont encore eux qui nous ont surpris, impressionnés. On peut être admiratif d'ailleurs devant leur combativité, leur ambition, leur force de se remettre en question en fait chaque année, tout le temps, alors qu'ils ont déjà tout gagné. C'est assez impressionnant. Et puis si on regarde bien, depuis maintenant, je sais pas, plus d'une dizaine d'années, ils sont toujours, ou quasiment toujours, il y en a au moins un des deux, en finale, sur quasiment chaque grand chelem. C'est quand même assez fou. C'est une rivalité extraordinaire. Ils ont réussi à élever le niveau de jeu. Je crois qu'ils emmènent derrière eux, ils créent une aspiration qui est extrêmement positive, une belle émulation. Donc voilà, pourvu qu'il reste encore un petit moment.
Est-ce que c'est pas dû aussi quelque part à la faillite particulièrement importante cette année de Murray et de Djoko?
Complètement. Mais encore une fois, faut-il en profiter? Quand on voit justement ce bas du tableau, il y a quand même un certain nombre de joueurs qui n'ont pas réussi à profiter justement des défections, des défaites des uns des autres. C'est pas si facile, c'est-à-dire que malgré tout il faut quand même être très fort, il faut travailler, se remettre en question, mentalement être toujours au top. C'est quand même un travail de chaque instant, donc c'est pas simple, c'est pas donné à tout le monde, et eux ils parviennent contrairement à beaucoup d'autres, mais ils sont au-dessus du lot clairement, les deux, et au-dessus même de Djoko, au-dessus même de Murray et de tous les poursuivants.
Voilà pour les hommes, un mot du tournoi féminin, parce que quelle histoire que celle de Sloane Stephens, 957e mondial en juillet, jusque même début août, et titré, donc premier titre en Grand Chelem hier face à Madison Keys.
Ouais, c'est une super histoire, et c'est un peu à l'image, je crois, des belles histoires qu'on a pu raconter sur cette US Open. Il y a eu beaucoup de défections, c'est beaucoup de retraits avec beaucoup de blessures, mais il y a aussi des retours de blessures qui ont animé un peu les deux tournois, masculin et féminin d'ailleurs, parce que Del Potro, c'est les trois opérations au poignet, puis un super parcours avec la victoire sur Federer, puis chez les filles, elles ont l'impression un petit peu tout était extrêmement en difficulté dans l'année, parce que Stephens donc l'a été évidemment, elle était très mal classée, elle se retrouve à gagner le Grand Chelem, c'est extraordinaire, c'est une magnifique histoire. Mais Madison Keys, c'est pareil, elles sont toutes jeunes, hein, ces deux joueuses, elles étaient attendues du giron fédéral, donc à l'USTA, Et voilà, et c'est maintenant qu'elles passent ce cap, cette étape qui potentiellement était dans leur corps. Donc voilà, mais c'est vrai que ce sont de belles histoires, mais c'est simplement aussi, c'est intéressant, c'est la persévérance, le fait d'y croire, avoir la foi, forcer le destin. Il y a plein de choses derrière à aller, à récupérer. Il faut s'en inspirer. Je crois qu'à un moment, il y a beaucoup de jeunes aussi qui ont réussi à exploser sur cette US Open. Je pense à Rublev chez les garçons, mais chez les filles, ça, encore une fois, c'est, on revient sur une Madison Keys. Je trouve que voilà, on n'aurait peut-être pas non plus misé grand chose pour qu'elle fasse finale. Un beau tournoi quand même, enfin, je crois, à l'arrivée, mais aussi extrêmement ouvert.
Un mot pour finir des Français, pas franchement brillant en Grand Chelem cette année, mais le week-end prochain, la France sera en demi-finale de Coupe Davis à Lille face à la Serbie. C'est une occasion de se remettre dans le sens de la marche et pourquoi pas de terminer l'année en beauté.
Ouais, non mais voilà, il y a cette opportunité qui est à saisir, il va falloir y parvenir, ça va pas être simple, même si contre la Serbie sur le papier, on est quand même grand favori, mais il faut faire attention, il faut se méfier. Je crois que la Coupe Davis a déjà prouvé que certains joueurs étaient capables de se transcender. On a déjà perdu contre des équipes beaucoup moins fortes que nous. Derrière, s'il y a une finale, tout peut se passer, ce serait fantastique de pouvoir gagner cette Coupe Davis, même si après, attention, ce serait un peu l'arbre qui cache la forêt, il y a aussi d'autres questions derrière, il va falloir quand même les affronter, ces questions.
Chaque chose en son temps. Arnaud Di Pasquale, ex-directeur technique national du tennis français. France-Serbie, demi-finale de Coupe Davis. Sans Djokovic, hein, on le rappelle, forfait. Ce sera donc à Lille le week-end prochain. Et Eric Mamrut sera l'envoyé spécial de RFI. Le grand événement actuellement sur le sol africain, c'est bien sûr l'Afro-Basket 2017. Ça tombe bien, c'est cette année. Qui se dispute en deux étapes. Une première partie à Rades, en Tunisie, et l'autre à Dakar, au Sénégal. Rades accueillera ensuite le tableau final. Avant de se lancer dans les résultats de la troisième et dernière journée de la phase de groupe, Alexandre, revenons sur l'accueil réservé à ce tournoi à Dakar.
Chaleur et joie pour ce début de compétition, ce petit bout de compétition en terre sénégalaise où se joue les groupes B et D. C'est beaucoup trop court pour les fans de basket sur place qui languissent déjà une organisation plus totale avec un Afro-Basket 100% made in Sénégal. Reportage depuis Dakar de Babacar Fall.
Chants et tam-tam qui rythment l'ambiance dans le stadium Marius Ndiaye. Les supporters sénégalais contents de revoir des matchs d'Afro-Basket à Dakar.
Il y a une très bonne ambiance.
Pour moi qui est né en 1993, le Sénégal a joué quoi, 4 ans après. Donc je ne pouvais pas avoir de souvenirs. Il était important pour moi donc de venir voir le Sénégal jouer ici à Marius Ndiaye.
Et la satisfaction du comité local d'organisation, le chargé de la communication Mbaye Jacques Diop.
Au regard en tout cas de ce que nous avions eu en termes d'infrastructure, quand on voit que les pays qui sont pratiquement à côté de nous, les pays limitrophes comme le Mali et la Côte d'Ivoire, ont de meilleures infrastructures adéquates, mais je pense que la FIBA a joué sur la carte de l'expérience du Sénégal.
Pourtant, les dirigeants sénégalais n'ont eu que quelques semaines pour préparer l'événement. Défi relevé. Mathieu Faye, conseiller à la FIBA.
On a fait des propositions. Le Sénégal a accepté et le Sénégal se devait effectivement de d'être à la hauteur, de pouvoir organiser cet événement-là, d'organiser ces trois journées. Mais bon, le plus important, c'est qu'effectivement les équipes se soient retrouvées ici, qu'elles aient pu jouer et que les qualifiés se retrouvent après à Tunis.
Mais la partie sénégalaise aurait aimé accueillir plus de matchs. Mbaye Jacques Diop.
Il y a en ce moment-ci même, il y a l'Eurobasket en Finlande, à Helsinki. Mais ce n'est pas la même ferveur que le Sénégal. Hier, j'ai aussi visionné quelques images du Tunis. Ce n'était pas la même ferveur. Et je suis persuadé aujourd'hui que les dirigeants de la FIBA Afrique ont même quelques regrets. Ils auraient pu jouer au moins ici quelques quarts de finale et même pourquoi pas une demi-finale.
Les équipes qualifiées au second tour de cet Afro-Basket masculin quittent la capitale sénégalaise ce lundi pour Tunis. Babacar Fall, Dakar, RFI.
Les résultats du jour, Olivier, en commençant par le groupe D. Le Sénégal a disposé du Mozambique 80-49 et prend le premier ticket, un rendez-vous en quart qui donne le sourire à Youssouf Ndoye, le pivot sénégalais, au micro de Babacar Fall.
Ouais, bien sûr, c'est les quarts de finale. Maintenant, si tu perds, tu pars à la maison et on n'est pas parti là-bas pour ça, donc on va faire notre mieux pour gagner.
Avec ce public, pas de regrets. Vous dites pas qu'on aurait dû organiser ce tournoi intégralement?
Ouais, bien sûr, nous tous, on sait que ça va être un plaisir d'organiser ce tournant-là. Tu vois, c'est au moins on a le moitié du tournant et c'était vraiment impressionnant comment le public sénégalais est venu. Et on espère que le prochain CAN, on va organiser tous les CAN.
Le second qualifié du groupe D, c'est l'Égypte qui a battu l'Afrique du Sud 70-51. Dans le groupe A, la RDC a battu le Nigeria 83-77 au terme d'un match serré et crispant selon l'ailier Évariste Chonyanga au micro de Farouk Katou.
Nous avons travaillé dur. Personnellement, je reconnais que nous avons eu la trouille un peu parce que c'était les Nigériens. C'est une grande équipe, une équipe qui s'est bat contre l'Angola, qui a déjà pris le titre. Et aujourd'hui, nous nous sommes rencontrés. Une fois sur le terrain, on a compris que tous on est des hommes, tous on peut jouer, tous on travaille le même basket, il n'y a pas de différence. Et voilà, avec la détermination, avec l'esprit d'équipe, avec tout ce qu'on avait, voilà, on a remporté le match.
L'autre rencontre, Mali-Côte d'Ivoire, victoire malienne 92-63. RDC-Nigeria qualifié dans ce groupe. Le groupe B, Maroc-Ouganda, victoire marocaine 79-70. Maroc qualifié. Enfin, le groupe C, Tunisie, bat la Guinée 64-59. La Tunisie qualifiée en compagnie du Cameroun qui a dominé le Rwanda 81-77.
Pour clore ce magazine, je vous propose de vous emmener sous l'eau, ça va faire du bien, à la rencontre d'un athlète mi-homme, mi-poisson, qui peut rester, tenez-vous bien, 7 minutes 15 secondes sans respirer. Morgan Bourkis est français la semaine dernière au Honduras. Il a remporté 2 médailles de bronze au championnat du monde d'apnée en profondeur. Une en poids constant, c'est-à-dire descendre et remonter avec des palmes. Le Marseillais est descendu à 101 mètres de profondeur. L'autre en poids constant, sans palmes. Il est allé cette fois à 86 mètres sous le niveau de la mer. Enfin, sur l'épreuve d'immersion libre, une discipline où l'on peut se tracter le long d'un câble, il a fini 5e, des performances qui ont valu à Morgan Bourkis, 39 ans, le titre de meilleur athlète de ces championnats du monde. Il est venu en début de semaine à RFI et Tom Rossi lui a demandé si malgré tout il n'y avait pas une épreuve plus prestigieuse que les autres, bref, si une médaille avait sa préférence.
Prestigieuse, on va dire peut-être plus pure, c'est le poids constant sans palme qui effectivement se nage sans aucun matériel, sans aucune assistance, uniquement à la force des bras et des jambes. C'est la discipline la plus exigeante techniquement et la plus physique. Je suis arrivé 3e donc sur cette discipline-là, c'est un peu ma spécialité moi, je suis ancien nageur et spécialiste de la brasse, donc ça m'aide pas mal au niveau technique aujourd'hui. Et après, l'épreuve reine reste quand même le poids constant avec palme, puisque c'est celle qui historiquement est la plus ancienne.
Quelles sont les sensations quand on fait de l'apnée en profondeur?
On est très basé sur le sensitif, en fait. C'est une expérience sensorielle très très importante, un bouleversement sensoriel, puisque vous êtes aussi dans un état qui s'apparente un peu à la pesanteur. Même si au départ vous flottez, au bout d'un moment, lorsque vous nagez, que vous descendez, vous commencez un petit peu à être dans une zone neutre et puis vous en laissez entraîner aussi vers le fond. Et vous avez un petit peu l'impression de voler. Vous êtes vraiment dans un milieu en trois dimensions. Ce sont vraiment des expériences assez exceptionnelles de glisse et toute votre somesthésie, en fait, votre système sensoriel est aussi bouleversé par rapport à la pression de l'eau qui augmente et vous êtes dans un état un petit peu second. C'est comme si vous ouvrez une porte sur une autre dimension. Donc on est vraiment sur des sensations très très fortes de bien-être, de recentrement sur soi dans un milieu qui peut être très très vaste, parce que lorsqu'on les descend au large dans le bleu, c'est comme si un petit peu on est au milieu de l'espace. Il n'y a pas de repère sous l'eau, on ne voit pas le fond, juste cette corde qui descend vers un peu un monde infini. D'un point de vue mental, c'est très très intense.
Pourtant, c'est un sport à risque.
C'est un sport à risque parce qu'on est dans un milieu où on ne devrait pas l'être, tout simplement. On est des terriens et même nous, si on est adapté à la plongée et à s'arrêter de respirer pendant de nombreuses minutes, on est avant tout des terriens. Mais on pratique une discipline dans laquelle on organise notre sécurité de manière drastique et très très rigoureuse. Il faut savoir qu'on ne pratique jamais seul. On est toujours encadré par un groupe qui est là pour notre sécurité, qui sait quoi faire en cas de défaillance aussi, en cas de perte de connaissance par exemple, et au manque d'oxygène. On ne plonge pas au milieu de nulle part. On est toujours relié à un câble avec une longe. On est suivi par un sondeur. On a également un contrepoids qui pourrait nous faire remonter très rapidement. Et puis maintenant, comme on l'a vu sur ce dernier championnat, on a aussi des drones parfois qui nous suivent pour l'image, bien sûr pour les médias, mais aussi pour la sécurité, pour savoir éventuellement prendre une décision pour un athlète qui serait en défaillance au fond de l'eau. On est sur une activité qui est très très encadrée, parce que certes elle présente des risques, mais on n'est pas des casse-cou.
Vous avez jamais peur quand vous frôlez les 100 mètres de profondeur? Et est-ce qu'il y a déjà quelque chose que vous avez croisé sous l'eau qui vous a tout de suite donné envie de remonter?
Alors, je n'ai pas peur parce que déjà, on ne descend pas à 100 mètres du jour au lendemain. Donc, on s'habitue. Et avant de faire 100 mètres, on va parfois juste à 98 ou 99 mètres. Et puis, on s'habitue et on répète ses plongées. Et puis, un jour, on va passer la barrière des 100 mètres. Et on va dire que c'est la même chose entre 10, 11 et 12 mètres. Donc, il y a vraiment ce phénomène de maîtrise, de répétition, qui est très important pour laisser voilà le corps aussi s'adapter physiologiquement, mais aussi mentalement. Donc, quand je descends, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur parce que je sais aussi que je pars pour un voyage qui est quand même aussi très fort, très intense. Si j'ai peur éventuellement, c'est que j'ai peut-être annoncé un chiffre trop important. Donc ça vient aussi de la maturité et de la manière dont on perçoit sa progression. Après, sous l'eau, je sais que je plonge dans un milieu naturel. La mer, pour l'homme, c'est tout un tas de bestiaires imaginaires et réels. C'est les monstres marins ont fait partie de l'histoire de l'humanité depuis des millénaires. Et puis c'est aussi un univers lié aux dieux, aux divinités. Donc il y a énormément de mythologie qui tourne à travers de ça. Et c'est vrai que nous, quand on plonge avec cet inconscient malgré tout. Mais c'est un monde qui est fantastique. Et personnellement, ça m'est arrivé de plonger avec des mammifères marins, avec des requins. Mais ce sont des animaux extraordinaires. Et donc j'y replonge sans problème, avec grand plaisir.
Comment on s'entraîne ? J'imagine que le mental a une part très importante.
Alors effectivement, il y a cette part d'entraînement physique, de répétition. Pour être un bon apnéiste, il faut faire de l'apnée, tout simplement. Pour être un bon marathonien, il faut courir beaucoup, mais pour être un bon apnéiste, il faut s'entraîner en piscine, en mer, il faut habituer son corps au manque d'oxygène, il faut travailler sur sa ventilation, sur sa souplesse thoracique. Et puis il y a cette approche mentale, effectivement, qui est très importante. Il faut pas se faire peur. Si vous faites peur, après, ça va être compliqué de retourner plonger. Vraiment, y aller pas à pas.
Et le monde de la plongée, est-ce que c'est un monde extrêmement concurrentiel ou c'est plutôt la convivialité qui règne entre les athlètes?
On est sur un sport qui se développe de plus en plus, qui est de plus en plus médiatique, mais dans lequel il y a encore peu d'argent. On est vraiment sur un monde, on va dire, qui est encore très sain, tout simplement dans le terme sportif et de la concurrence. Lorsqu'on est champion du monde ou qu'on fait un record, on n'a pas de billets qui arrivent et qui vous assurent un an, deux ans de subsistance. Donc moi, par exemple, j'ai été plusieurs fois champion du monde, mais en 2008, sur mon premier titre en Égypte, j'ai gagné un très beau sac de sport. C'était super.
Ah bah c'est déjà pas mal. L'apnéiste français Morgan Bourkis avec Tom Rossi, 6-3, 5-2 pour Nadal qui file vers un 16e titre en Grand Chelem. Quentin Bresson, lui, file chez lui et nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence.